Alors, Aliette, est-ce que... Je commence. Est-ce que tu peux nous dire à partir de quoi tu as conçu ton couple, en fait? Comment tu as commencé à l'envisager et comment tu as rassemblé les ingrédients que tu voulais pour ton couple?
Alors, sans doute, le fond, c'est une connivence, quelque chose de difficile à mettre en mots, qui est quelque chose d'un début d'appartenance, d'un début d'alliance. Mais bien sûr, à ce moment-là, j'avais certainement pas les mots pour le dire. Et en plus, il y a eu une longue période avant la décision de former couple vraiment, enfin, de nous marier et d'avoir des enfants et de créer une famille.
Une longue période.
14 ans.
Ah ouais.
Au bout de 14 ans, nous avons décidé de fonder une famille.
Wow.
Ah. J'imaginais pas tant.
Oui, 14 ans. C'est ma mère qui nous a mariés à la mairie et qui a dit après un long coup de foudre de 13 ans et demi. Voilà, voilà.
Quand je pose ma question, tu...
Non,
tu
non mais j'aime bien parce que j'aime bien que tu formules bien. Donc, vas-y.
Est-ce que tu as est-ce que tu as observé des couples en te disant ça, je vais le vivre ou ça, je vais pas le vivre?
Oui, bien sûr, mais si je n'avais qu'un mot, qu'une phrase pour dire, surtout parce que moi je me sens clinicienne, donc intéressée par ce qui se passe quand ça se passe mal, pour moi, c'est, si je résumais le mot qui dit la santé d'un couple, c'est celui de la générosité. C'est vraiment ça que j'ai eu à cœur d'observer, de remarquer et sans doute de privilégier dans la construction de mon couple, comme je le vois en tant que praticienne, comme un cadeau à faire au couple, bien sûr. D'être dans une énergie qui est complètement différente, c'est-à-dire que les modèles que nous avons eus, c'est plutôt le pouvoir qu'on peut prendre en privant, et que si nous quittons ce modèle et si nous mettons au contraire de l'énergie à donner plutôt qu'à retenir ou à priver, et moi, pour moi, c'est l'autoroute de la santé du couple. Voilà, donc ça c'est vraiment la chose que je mets en premier. Et puis ensuite, bon, je parle beaucoup moi-même de cette découverte que j'ai faite en travaillant plus intellectuellement sur le couple et les douleurs du couple et les dangers sur le chemin, notamment du fait d'un héritage qui a pour moi beaucoup valorisé la dépendance plutôt que le désir, l'amour, l'appartenance. C'est vraiment ce que j'ai résumé avec ma petite expression, le deuil du dû. Tant que je suis, ça c'est valable pour toutes les relations, mais et surtout pour la relation de couple, tant que j'imagine que parce que c'est mon homme, mon amoureux, mon mari, il me doit quelque chose, je suis juste à l'inverse de la construction d'un couple. Qui a à voir avec l'inversion de cette dynamique. Et pour moi, c'est faire le deuil. Donc, d'un côté, c'est alimenter la générosité. Et de l'autre côté, c'est faire le deuil, qui prend quelques années, de la croyance que l'autre me doit quelque chose. Et surtout, bah, si c'est mon mari, parce que les modèles vont dans ce sens. Et moi, faire le deuil aussi d'être dans la dépendance à lui, parce que je lui devrais quelque chose. Voilà. Pour moi, ce sont les deux piliers.
Est-ce que tu penses à des moments ou à des histoires ou à une façon dont ça se traduit du côté de la générosité et du côté du deuil du dû?
Mais en plus, quand tu poses la question, je réalise que les deux sont liés. Enfin, les deux phases de la même pièce. Ouais. C'est à partir sans doute de cette conviction qu'on ne peut construire quelque chose que si il y a eu ce minimum de deuil, de considérer que l'autre me doit, la générosité, elle prend la place. Elle prend la place de ça. C'est-à-dire être dans le geste d'entendre au lieu de comprendre, d'accueillir ce que je comprends pas en considérant que c'est naturel et que j'ai aucune pression à mettre, ni d'exigence de savoir, de comprendre, d'avoir des explications, d'être comprise. Et pour moi, elle est là la clé. Que certainement... qu'une partie du charme de l'autre, je pense à Laurent, c'était que je comprenais pas, et lui, il m'a fait le même cadeau de me dire qu'il comprenait pas, et toujours au bout de ses 45 ans, qu'il comprend pas, et je pense que c'est parce que nous avons accepté tous les deux de ne pas comprendre, que quelque chose de magique peut se passer. Et ça peut alimenter une fluidité, ça peut alimenter surtout quelque chose du plaisir d'être ensemble plutôt que de la douleur de vouloir ouvrir une porte fermée.
C'est étonnant ce que tu dis. Je trouve, c'est complètement étonnant de dire à partir du moment où justement je vais pas être dans cette démarche de comprendre, puisque justement c'est ça que les couples disent à l'extérieur.
Oui, tout le temps. Sais bien, et c'est ça qui m'a semblé suspect.
Suspect, c'est l'histoire de communiquer.
Voilà.
Du coup, là, on trouve...
Et que je vois dans les préparations de mariage, dans les, enfin, plein de lieux thérapeutiques, religieux, au contraire, cette consigne de vouloir comprendre et être compris, et de parler, et pour moi, alors ça, c'est une chose à quoi je tords le cou avec allégresse, c'est que la parole, elle est souvent déplacée. La parole, elle est celle qui permet d'échanger de l'énergie, mais surtout pas des explications. Parce que, bon, pour moi, si je le dis en une phrase, c'est que souvent parler nous conduit à un piège fatal, qui est celui de vouloir convaincre, c'est-à-dire de vouloir prouver qu'on a raison et que l'autre se trompe, et que chaque fois que, dans un couple, nous risquons ce piège, c'est quelque chose qui est le contraire de la magie vitale du couple. C'est que,
et donc pour moi, comme il est,
pas seulement, c'est plus que ça. C'est, pour moi, c'est déraciner, cette volonté de contrôler en comprenant, en parlant, etc. Donc, la parole, bon, je le dis un tout petit peu en boutade, mais la parole, ce serait simplement, dire à l'autre, oui, je me réjouis de te connaître, et donc, bien sûr, encore en boutade, tu es beau, tu es intelligent, comme ça, bien sûr, avec un mode humoristique au deuxième degré, mais ça permet quand même d'avoir le minimum syndical de parole, sans tomber dans le piège d'une parole qui serait stérile et assortie de la volonté de contrôler l'autre, ou de surtout en le comprenant. Donc le mot fatal pour le couple, c'est comprendre. Mmh. C'est vraiment
du
ça.
Coup, manipuler tout le contrôle.
Est-ce que vos enfants ont relevé des choses de particulier dans votre couple? Est-ce qu'ils ont dit ce qu'ils ont observé de l'extérieur
souvent,
et dans la famille?
Ils ont dit que c'était
qu'est-ce qu'ils relèvent, qu'est-ce qu'ils
bon,
ont souligné?
Sans doute atypique, bizarre, oui, pas classique, c'est vrai, mais sans doute que c'est quelque chose qui pour moi a été un lieu de séduction chez Laurent, c'est son côté vraiment atypique. Et ce que disent les enfants, et ce que je confirme aussi, ce que j'ai dit sans doute avant eux, c'est notamment son trait de caractère, de s'intéresser à plein de choses qui ne servent à rien, dans le social, des sujets de curiosité, des choses dont il est le seul à connaître les clés, et ne serait-ce que sa collection de cadenas, dont je suis pas sûre qu'il savait les ouvrir et les fermer, mais ça faisait partie vraiment de quelque chose d'atypique, voilà. Et c'est ce qu'il me renvoie aussi.
Je pense à l'unique.
Oui, c'est ça, l'unique, voilà.
Tout à coup, il devient l'unique. Il y a plus Laurent.
C'est ça.
Et est-ce que tu vois, maintenant que certains de tes enfants sont en couple, est-ce que tu vois des choses que vous leur avez transmises?
Alors, je vois ça. Je vois ça et je me réjouis de la liberté qu'ils ont eux-mêmes par rapport à... Donc au message des médias, de la morale, je les vois libres, je les vois très libres. Voilà, j'ai beaucoup plus dans le désir et le plaisir que dans la dépendance. Je les vois vraiment tant sur leur mode d'emploi des outils que nous avons reçus que dans un mode de vie fait de beaucoup de confiance. Voilà, je les vois dans beaucoup de confiance réciproque et dans beaucoup de plaisir échangé. Et je les surprends pas dans cette laisser prendre dans les pièges de tout ce qui est prôné dans les magazines et dans la morale et dans les médias.
Je pense à une chose. Oui, est-ce que une histoire?
C'est des anecdotes.
Oui, c'est ça.
Je pense à une simple que j'ai bien aimée. Référence,
oui.
Le train qui
est parti. Oui, ah oui, c'est vrai. Ah oui, je peux te parler de ça.
Est-ce que tu veux bien raconter cette,
tu veux
cette
que
anecdote
raconte...
du train?
Oui. C'est en fait un des traits de caractère de Laurent, c'était sa façon d'arriver ric-rac au rendez-vous, d'arriver avec un peu de retard. Et je me souviens quand les enfants étaient tout petits, nous prenions le train régulièrement et je vois bien que moi, qui suis anxieuse, qui dont la névrose est d'arriver très en avance dans les gares ou dans les aéroports, il y avait une petite amorce de jeu là. Et je me souviens que j'étais trop mal quand je l'attendais, quand il était supposé venir nous chercher tous les six donc. Et donc je lui avais dit que moi je préférais, même avec la ribambelle, partir prendre le bus ou le métro ou voilà, pour arriver à la gare comme moi j'en avais besoin. Et je me souviens que une première fois lui est arrivé en retard, la deuxième fois il est arrivé ric-rac et donc moi j'ai cru qu'il avait manqué, puis il est arrivé alors que le train avait déjà parcouru quelques kilomètres. Et ensuite j'ai vu que il y a quelque chose à partir du moment où j'avais respecté son besoin à lui d'être ric-rac, que lui sans doute avait été dans plus de satisfaction à arriver avec nous et à s'installer dans le train avec nous et de partager le voyage avec nous plutôt que de prendre le train suivant et de devoir prendre ensuite un taxi et d'arriver. Et ça a été un moment où j'ai vu que ça n'avait pas été dans volonté de contrôle, mais dans plutôt lâcher les choses, moi gagner en autonomie, faire mes trajets toute seule et lui laisser lui vivre ce qu'il avait à vivre. Enfin, c'est vraiment ça. Et ça, ça a été une chose que j'ai trouvée fluide. Voilà. Mmh. Fluide et je me souviens aussi autre chose qui m'avait marquée dans le couple, là, parce qu'après il y a tout son comportement avec les enfants que j'ai beaucoup apprécié et beaucoup aimé. Et nous étions tous les deux des jeunes débutants de 39 ans à la naissance de notre première fille. Et c'est...
Il a le même âge que toi, Laurent.
Oui, nous avons 4 mois d'écart. Oui. J'ai 4 mois de plus. Et je dis que j'aime bien de m'en profiter. En fait, je vais commencer par ça. C'est ce qui m'a infiniment touchée. C'est sa façon de se déclarer disponible pour que je puisse concilier mes emplois du temps et les enfants. Donc, quand les enfants étaient encore à l'été et que j'animais une journée, c'est lui qui venait avec le bébé à l'été sur le lieu de travail et je voyais que c'était vraiment quelque chose de très joyeux et je suis pleine de gratitude pour lui dans son regard sur moi, jeune maman un peu anxieuse et tout ça, et qu'il était dans une confiance absolue et dans beaucoup d'humour et dans beaucoup de solidarité là, et plus que ça de réjouissance. Et même après, bon, c'est une autre anecdote, je sais pas si c'est conservé, c'est que nous étions bien d'accord sur dénoncer les violences éducatives ordinaires, c'est-à-dire vraiment nous étions très d'accord, peut-être que nous avions besoin de 14 ans pour nous mettre d'accord là-dessus, sur pas de fessiers, pas de violence et tout ça. Et je me souviens qu'un jour, il avait la charge d'une journée avec la charge des enfants pendant une journée, et que quand j'étais revenue, le soir, le samedi soir, j'avais vu les enfants très excités, maman, papa a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire, et Laurent était tout penaud, et ils étaient tous en randonnion, et Laurent comme un accusé devant un tribunal, et je me souviens, ils avaient dit « Maman, on veut te raconter ». Ou plutôt, ils avaient dit « Ben maintenant papa, tu vas raconter ce que tu as fait, parce que c'était vraiment pas bien ». Et Laurent avait dit « Oui, j'ai donné une tape, et j'ai fait comme ça. Et maintenant maman, il faut vraiment que papa puisse réparer ». Et donc il y avait ce tribunal où ils étaient tous comme ça, et je me souviens de ce moment extraordinaire où il n'était pas question, évidemment, de revenir à « puisque je suis un père, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui vais décider », et de voir à quel point il y avait eu cette confiance des enfants de confronter leur père sur la tape qu'il avait donnée, et moi, et supposé être juge de la situation venant de l'extérieur. Et c'est un moment dont on se souvient avec beaucoup d'émotion, parce que ça avait été très joyeux et très respectueux, et Laurent très à sa place. Et là, j'avais vu vraiment que nous avions construit ensemble cette cloison étanche avec la violence éducative ordinaire. Mmh. Et qu'il y avait quelque chose qui était, pas d'être parfait, mais d'être capable d'entendre les enfants dans leur confrontation. un moment qui reste très chaud pour moi. Et très joyeux pour lui quand les enfants lui rappellent ça. Tu te souviens, papa, quand tu lui as donné cette table, comme si c'était resté un acte. ce qui m'a confirmé aussi dans cette alliance de couple et de parents, c'est vraiment d'avoir été dans tous les deux dans cette liberté de pouvoir, en présence des enfants, confronter un comportement en sachant que c'était nul discrédit pour la personne elle-même. Et vraiment ça, j'ai aimé faire ce cadeau aux enfants, de pouvoir dire ça, j'aime pas ce que tu fais, et de pouvoir en même temps dire aux enfants combien j'admirais leur père, combien j'admirais sa façon de conduire comme un pépé, de prendre aucun risque en voiture, combien j'aimais plein de choses et combien j'admirais plein de choses chez lui, tout en étant dans la confiance à lui faire de pouvoir le confronter sur des choses. Voilà. Et par exemple, une autre façon aussi d'être dans cette distinction, c'est que nous avons chacun, bien sûr, à la fois un héritage sur des us et coutumes comme l'alimentation. Et je vois que pour Laurent, c'était important de continuer à avoir certaines pratiques alimentaires. Et combien, quand lui était en charge du repas, les enfants faisaient des expériences que finalement, quelquefois, soit je désapprouvais, soit je n'aimais pas par goût. Et combien ça permettait aux enfants de voir que chaque parent avait un territoire qu'il pouvait valoriser, qu'il pouvait vouloir transmettre, qu'il pouvait célébrer. Et qu'il n'y avait aucun risque de contrôle là-dessus. Et donc, moi, j'étais évidemment un tout petit peu plus sévère sur le contenu des assiettes, mais combien, quelquefois, je voyais Laurent, beaucoup plus audacieux que moi, à permettre aux enfants de faire des découvertes, et quelquefois, c'était dur pour lui de voir que les enfants avaient plus de réserves sur des plats un peu bizarres, je dis pas langue de bœuf, mais des choses comme ça. Mais je les laissais faire leur expérience, et moi, j'étais plus classique, certainement, et plus rigoureuse quant à des principes aujourd'hui d'alimentation. Et j'ai aimé qu'il n'y ait pas une rivalité qui aurait donné lieu à un conflit de personnes. Et quelquefois, j'avais le cœur serré de voir Laurent pas du tout accueilli autant qu'il espérait dans ses explorations étonnantes. Alors moi, évidemment, je la jouais plus simple avec le riz, pommes de terre. Voilà. Mais j'aimais bien le voir faire. Lui, par exemple, explorait les fromages, aussi des choses comme ça. Ou des choses de la viande. Alors là, il avait deux adeptes pour la viande et les autres étaient un petit peu plus mangés crus. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé la façon dont ça s'est passé. Il n'y avait pas une pensée unique à ce sujet. D'ailleurs, je crois qu'entre Laurent et moi, il y a très peu de pensées uniques et communes. Et j'aime la façon dont il respecte vraiment ce que je pose et dont la façon aussi dont je respecte ce qu'il pose de son côté.
Ça, c'est aussi quelque chose d'énorme par rapport à la culture de couple.
Cette compétition de territoire qui a raison, qui a tort, qui réapparaît là comme étant un antidote.
Ça. Et l'obligation que dans laquelle se
d'être d'accord.
Personne d'être d'accord. Et que quand l'autre n'est pas là, il faut faire pour l'autre aussi.
Et je me souviens que quand les enfants demandaient alors Dieu, etc., ils disaient allez plutôt demander à votre mère. Moi, je ne sais pas bien en parler. J'ai fait ça. Voilà, et puis, les territoires, évidemment, des familles d'origine, bon, ça, je me souviens qu'on avait décidé très tôt, notamment les enfants étaient petits, où on était supposés aller avec les enfants chez mes beaux-parents, donc les grands-parents paternels, et que quelquefois, j'ai préféré le laisser aller seul, tout court, ou seul avec les enfants, plutôt moi d'accompagner où je voyais que lui ça le mettait en difficulté par rapport à ces deux territoires famille d'origine et famille à construire et en train d'être construit, et j'ai aimé ça aussi de pas vouloir prendre le risque peut-être moi d'être dans la douleur de le voir en difficulté. Et je lui fais confiance pour que les enfants soient bien sur le territoire là-bas.
Comment est-ce que tu as aménagé les choses pour payer le prix de ça? Parce que, par exemple, ça ne correspond pas du tout au modèle non plus.
Oui, mais ça, c'était l'avantage d'être un couple qui se mariait à 37 ans, 38 ans. Tu vois, et c'était il y avait cette chose, et d'avoir passé déjà 40 ans, 14 ans, non pas différencier tout ça, parce que ça a été une décision tardive, mais d'être en relation, d'avoir construit déjà quelque chose. Donc, on était à cet âge-là, et à la fois en tant que couple et en tant que parent, il n'y avait plus rien à prouver, ni aux parents, ni aux copains, ni aux psy, ni aux médecins. Il y avait quelque chose d'une autonomie à la fois individuelle et puis à deux. Et c'est ça que j'ai aimé, que lui non plus n'avait pas besoin de prouver des choses à ses parents. Bon. Donc ça nous a permis de mobiliser l'énergie sur ce que nous voulions vraiment tous les deux, la construction et de ce couple et de cette famille. Donc plus de d'autonomie, plus de liberté, plus de légitimité aussi à n'en faire qu'à notre tête.
Ça c'est, je pense à nos Simone. Je me dis, ben voilà quelque chose de, que vous avez. Que c'est vrai que c'est un âge, une maturité.
Oui. Ah oui, bien sûr. Moi, à titre individuel, mais aussi dans le couple. Et par exemple, pour toutes les questions de vécu de la grossesse, de mes grossesses, ensuite de l'allaitement, j'ai vu jamais, aucune résistance de son côté à m'accompagner dans ce qui me semblait important. J'ai senti, voilà, ça c'est une gratitude infinie pour Laurent, combien il a accueilli la mammifère que je suis. Alors ça, bon, il me dit, bon, non, moi je comprends pas, je suis un homme, etc. Mais il avait justement pas besoin de ça. Il était, je crois, très émerveillé de ce qui se passe dans cette dynamique mammifère, très touché, et dans une disponibilité pour accueillir la mammifère que j'étais, nuit et jour. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. C'était un inconditionnel.
Les mots qu'elle me semble plus sortir de l'écran, c'est confiance.
Oui.
On voit que c'est une relation où il y a beaucoup, beaucoup de confiance.
Oui. Oui. Ça, je sentais. Je sens très fort la confiance que Laurent me fait.
On pourrait dire que c'est la sérénité de l'amour.
Oui, c'est ça.
Sans confiance.
Et confiance, ça veut dire aussi sœur jumelle de générosité. Ouais. Et reconnaissez ça, c'est la reconnaissance de l'autre dans ce qu'il a de quelquefois de plus étrange, mystérieux.
Et aussi le manque dans cette confiance aussi, du coup, n'est pas dans des pièges de l'emprise, de vouloir contrôler et accueillir le mystère. Enfin,
je sais pas si c'est ça.
Donner la place au mystère, au lieu de vouloir vite le.
Oui, oui, c'est vrai.
Pour ne pas être contrôlé, mais attends, je ne sais pas, peut-être que.
Mais moi, je vois la gratitude, vraiment ma profonde gratitude, de toutes les permissions que Laurent m'a données, de tous les regards. Je dis encore souvent aujourd'hui, quand je suis en coincée dans quelque chose que j'arrive pas à décoder, je vois que je pose la question à Laurent, j'expose quelque chose à Laurent, et tout de suite Laurent me dit un autre regard que celui que j'avais. Et donc je vois bien que nos cerveaux sont faits différemment, nos regards sont différents, nos paires de lunettes aussi sur la vie, et que chaque fois c'est cadeau, parce que ça me permet de sortir de l'ornière de la perception que j'ai moi, et sa perception éclaire la mienne. Et ça, c'est tous les jours que je vois ça. De quelque chose de cette, comment dire, de ce compagnonnage dans la lecture du monde. Voilà. Ça, tous les jours. Et je pense, j'imagine, sans l'avoir vérifié, que pour lui aussi, sans doute, quand je parle des enfants, quand je parle de tout ça, mais moi, là, ce que je peux signer, c'est la reconnaissance que j'ai pour, ces cadeaux qu'il me permet de prendre chez lui, quand il parle de n'importe quoi. D'ailleurs, à chaque fois, je lui dis, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ah oui, c'est une autre façon de voir. C'est vraiment très, très fréquent. Alors, c'est vrai que nous avons une circonstance favorable pour avoir été dans cette confiance et dans ce silence, souvent. C'est que tous les deux, nous avons une profession avec un très fort taux de confidentialité. Lui avocat, moi psychothérapeute, ça veut dire que c'est interdit absolument, bien sûr sur un plan éthique, de partager nos dossiers ou nos pratiques. Et ça nous a permis sans doute d'éviter un des pièges que j'entends souvent dans les couples et ailleurs aussi, de qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, si j'avais travaillé en entreprise ou si j'avais travaillé je sais pas où, j'aurais peut-être été tentée d'alimenter ce piège-là. Alors là, absolument pas. Je savais rien de sa pratique ou de ses dossiers et il ne savait rien non plus de ma pratique et de mes dossiers. Donc c'était très très bien ça,
ça
aussi.
Ça vous a facilité ouais. Oui, déjà oui, d'être en relation directe voilà. Au lieu de ressasser oui, la journée.
Oui.
D'être dans le présent.
Oui. Et une chose aussi dont je suis très reconnaissante, c'était d'avoir accepté ces moments, ce que j'appelle les sas des retrouvailles. Si j'étais vraiment très encombrée encore en rentrant, ou lorsque lui rentrait, parce que généralement j'étais là avant lui, j'étais encombrée et moins disponible pour la relation, quelle qu'elle soit, je lui demandais et il acceptait que je prenne 3 minutes pour dire, pour décharger, dire j'en ai marre, et c'était difficile, et c'était, d'avoir ce moment là, oui, que je vais appeler de décharge, et je lui avais vraiment donné la consigne importante, tu ne réagis pas sur le contenu, tu me fais pas la morale, tu me fais pas l'explication, tu me fais rien, tout ça, parce que je te fais pas cette demande, je te demande juste de dire, ouah, ça a dû être vraiment difficile à lier de ta journée, et je prenais 3 minutes chrono, on chronométrait vraiment. Et après, évidemment, je retrouvais ma capacité à être disponible pour la relation et pour la soirée et pour ce qu'on avait à vivre ensemble. Et au lieu d'être encore dans cette coupure, cet écran entre nous deux avec ce courroux que j'avais pu accumuler, avec cette peur que j'avais pu éprouver. Et ça, il a très très bien joué aussi. Et je vois que la confirmation ou l'illustration de cette capacité à être ensemble sans parler, c'était que j'adore et encore faire des kilomètres avec Laurent, lui au volant, parce que moi j'aime pas conduire tout court, et lui je vois, comme je disais, il conduit très tranquillement, et j'ai pu faire des journées de voiture avec lui, et c'était juste sublime, parce que je sentais cette énergie entre nous, et que nous n'étions ni l'un ni l'autre dans cette supposée obligation de parler, et ça j'aimais beaucoup de discuter
parce que j'imagine bien ton directement voilà. Chez Château à la Verdier ici à Fleury
oui.
Mais pas
juste
de,
dire ça voilà
tata un tel a fait si on va faire tel ça pour discuter j'aime ça j'ai pris cette permission aussi
d'être juste ensemble
apprendre à être ensemble enfin, c'est rigolo parce que Paul embarque mais il embarque il adore passer des moments de temps faire quelque chose ou que c'est pas son silence, ou ton reconnaissance. Et j'aime, c'est quand il commence à parler. Et maintenant, on a fait un code, c'est on parlera de ça plus tard.
Ça.
Et on parlera jamais, mais.
Oui, mais
c'est ça, c'est déjà que tu entends aller de vie et quoi, tu parles de quelque chose que tu ne conviens pas.
Oui, oui.
J'aime bien.
Un code de grande prudence, là.
Voilà.
Autre chose.
Ah oui, j'aime bien l'anecdote de la vaisselle.
Ah oui, oui, oui. Alors, c'était pour mettre en place notre règle qui était de pas discuter, enfin, d'éviter le piège de vouloir avoir raison ou de donner tort à l'autre. On avait mis ça très tôt dans notre vie de couple, donc début de notre mariage. Que celui qui disait à l'autre attention là je viens de te prendre en flag de vouloir avoir raison, c'était la personne qui était à ce moment-là prise en flag qui était de corvée de vaisselle, voilà, ou qui avait quelque chose à faire comme ça, et ça a été très efficace, et je dois reconnaître avec humilité que c'est plutôt moi au début de notre couple qui faisait la vaisselle. Parce que je vois que j'étais plus passionnée, plus convaincue, etc. Et lui, moins mobilisée tout de suite. Et donc, ça m'a beaucoup calmée. Et ça m'a permis, grâce à ces confrontations et à ces alarmes, ça m'a permis de voir que j'étais encore vulnérable et prête à bondir sur mon cheval et à galoper pour convaincre l'autre. Et je crois que ça m'a beaucoup aidée à changer quelque chose d'important dans mes relations. Voilà. Et c'est aussi grâce à lui qui me confrontait. Et je me souviens aussi d'une autre anecdote, je sais pas quelle place elle pourrait prendre là. C'était moi qui pouvais penser, donc avec une légère tentation de blâme, que que lui laissait plus de bazar à la maison, etc. Et je me souviens très bien, un jour, il n'y avait pas encore d'enfant, c'était vraiment au début de notre mariage, et lui avait un dossier et a fini de préparer, et moi j'avais aussi quelque chose. Et on était tous les deux dans la même pièce, et c'était bazar, la vaisselle n'était pas faite pour faire court, comme ça. Et je me souviens très bien de la permission que j'ai prise, je l'ai vu lui s'installer sur son dossier, alors que moi, sans doute en tant que femme, incarnée dans une culture où c'est ordre et propreté, comme les deux mamelles de la santé et tout ça, que j'ai pris la permission d'en faire autant, de m'asseoir, de faire ce qui était en priorité à faire, c'est-à-dire finir un dossier, une lettre ou je sais pas quoi. Et j'ai vu que Laurent avait plus de sagesse que moi, d'être dans cette priorité et de pas être dépendant du cadre, alors que moi j'étais tentée de l'être avec certainement un scénario, donc je vais pas commencer un travail avant que la maison soit propre, ce qui est vraiment quelque chose de scénarique et qui n'a pas beaucoup d'importance. Et j'ai vu la permission que je peux aussi terminer un dossier alors que la vaisselle n'est pas prête. Je suis pas condamnée à ça. Et ça, ça a été une grande permission aussi que j'ai prise.
Que c'est difficile de prendre celle-là.
Voilà, il était tranquille, donc moins dépendant que moi du cadre, de la vitesse du vent, il y a du capitaine.
C'est quelque chose masculin.
Oui, sans doute. C'est pour ça que je dis bien, c'est parce que je suis toujours une femme avec des consignes, avec des modèles, avec ma maman, ma grand-mère et tout ça. Et que c'était quelque chose d'intéressant.
Je crois que j'ai tellement entendu de ma mère dire d'abord le devoir, après le plaisir ou quelque chose comme ça, que c'est presque automatique de vouloir arranger d'abord et après je t'aime ce que j'ai à faire. Et Paul, petit tranquille, dire non, là je vais m'enfermer, je vais faire telle chose, tout en désordre.
Une autre circonstance où j'ai vraiment senti l'alliance, c'était surtout à propos des enfants et le prénom des enfants, tout ce qui avait à voir avec leur santé. J'ai beaucoup aimé, et je continue à le faire en famille, écrire le cahier qui serait un testament spirituel, c'est si nous disparaissons avant leur majorité, donc là c'est plus le cas parce qu'ils sont majeurs tous, mais j'ai aimé rédiger ce cahier avec lui, c'est qu'est-ce que nous, si nous disparaissons ensemble, à qui nous confions les enfants, et qu'est-ce que nous donnons comme consigne sur la santé, les études, les finances, enfin toutes ces choses-là. C'était vraiment des moments intenses, où je sentais une véritable alliance de parents sur les choses de fond. Et donc les enfants étaient présents aussi quand c'était le 21 août à l'anniversaire de Mathias, que souvent j'ouvrais à nouveau mon cahier et on révisait et qu'est-ce qui se passe et, par rapport aussi sollicitations sociales, politiques. Qu'est-ce que j'avais envie de transmettre avant la majorité, mes enfants, donc oralement comme ça, ou s'ils disparaissaient par écrit. Voilà. C'était important.
Comme aussi un endroit qui signe, qui rassemble quelque chose de votre identité, de couple et de famille.
Voilà. Oui. Et que, alors après, bien sûr, c'était des moments d'humour. C'était qu'est-ce que nous donnons chacun comme livre, comme objet, comme voilà. Et Laurent disait, ben voilà, moi je souhaite donner telle chose à tel enfant. Et donc c'était fait avec beaucoup de joie. Et je me souviens un jour, c'était donc, parce que c'était l'anniversaire de Mathias, mes parents étaient là, ils avaient été un peu étonnés de la façon dont on continuait à rédiger ce testament spirituel.
J'imagine qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un de l'extérieur,
oui,
qui n'est pas dans le même code, qui rentre dans l'intimité, dans le territoire, ils commencent eux à voir. Alors qu'on est dedans, on va plus.
Et je vois que cette alliance, ça me permettait aussi de vivre bien celle qui pouvait être exister entre ma mère et Laurent. Quand ma mère disait, oh là là, mon pauvre Laurent, vous avez à supporter quelqu'un qui est vraiment bizarre, etc. Et tous les deux, ils faisaient le cœur des victimes comme ça. Et j'aimais bien les voir partager cette complicité ça, là, parce que je sentais que ça ne mettait pas en danger ni ma relation avec ma mère, ni ma relation avec mon mari. Voilà. Mais ils étaient quand même très dans... quand même, cette personne-là.
J'ai peut-être pour boucler, comme si je peux faire référence aussi, comme parfois tu poses la question si j'étais une épitaphe, qu'est-ce que ça serait celle de ton couple ?
Ah, j'ai pas pensé à ça. Peut-être que ce serait quelque chose autour d'un... d'un mythe fondateur que j'ai pas encore élaboré à ce sujet. Merci pour ta question. Oui. Il y a certainement quelque chose qui a à voir avec quelque chose d'avoir survécu, voilà, à quelque chose de très différent dans chaque famille, d'avoir été des survivants tous les deux, ça c'est certain. Mmh. Ouais. C'est parce que c'est ça que je retrouve dans une énergie.
Dans votre histoire, dans notre histoire à chacun.
Ouais, ouais. Mmh. Je pense que lui serait d'accord là-dessus aussi. D'où une moindre dépendance sociale, puisqu'il y a quelque chose qui vient de plus haut.
Mmh. D'où, tu sais, la valeur de la vie, quand les gens qui disent maintenant je sais ce que c'est la vie.
Ouais.
Ouais. Ouh, je t'ai interrompu.
Non, quelque chose que je vois dans. Justement, quelque chose d'indicible. Mmh. Quelque chose de très fort, de quelque chose qui est atemporel. Voilà. Quelque chose qui a dû fonctionner dès la première rencontre. Donc, 5 février 71, je me souviens bien, et qui a été maintenu ensuite avec cette confiance dont tu parlais là. Mmh. Oui. Je vais réfléchir à l'épitaphe. Oui. Peut-être que ça pourrait être relié à ma devise et aussi à mon épitaphe personnel, hein, puisque ma devise c'est ou vivante ou parfaite, et mon épitaphe c'est ni vivante ni parfaite. Voilà. Et ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là sur la vie à partager. Et je me souviens aussi de ce que les enfants disaient pour définir notre famille et notre couple quand ils étaient scolarisés là dans le quartier. Ils disaient, chez les panafieux, c'est papa qui fait la cuisine et maman qui lit des histoires. Parce que je passais des heures, des journées à lire, et c'est Laurent qui faisait la cuisine. C'était un peu l'image de marque. Voilà.